Tata boom! Salut tout le monde, bienvenue dans la 68e émission de Tata Poum sur Cause Commune. Grande année 68, qui était né autour de la table? Pas grand monde je crois, peut-être, bah suivez mon regard dans le bocal de la régie qui sent un peu le formol. Nos compagnons Bibi et Marion ont bien connu ce temps de contestation et d'émancipation. Ça le ferait peut-être un printemps iranien ou des manifs après municipales. Alors, est-ce que cette émission sera à la hauteur des rebondissements de 68? On parlera ce soir des États-Unis de Water from Your Eyes, des Catalans de Shakti, des Australiens de Miniskirt et de l'Anglaise Aya. Et autour des micros pour débattre en toute bonne foi et pour livrer leur meilleure punchline. Toujours objectif, on va retrouver Héloïse, Nina, Mathieu, Cédric et Guillaume. On démarre par Water from Your Eyes et c'est Guillaume qui va nous en parler. On démarre avec le titre Night in Armor.
Wanna fight you cause I'm tired. Tired of any treasure around. I'm burning up world and every title now. Spite me, I'm on fire. Fight me, it's expired. I find out you can last a while. Your system will inspire. But to death so up there. Spent it, you're alive.
On démarre par toi Guillaume qui nous présente le duo new-yorkais Water From Your Eyes qui sort donc son nouvel album sur le label Matador, label US mythique sur lequel on retrouve la fine fleur des groupes indés américains qui ont sorti leur premier album dans les années 90, Super Chung, Pavement, Viola Tango. Alors est-ce que le jeune duo est à la hauteur de la réputation du label? On va vite le savoir Guillaume.
Ouais, ben déjà, notons que la tonalité est résolument plus pop de ce morceau, laisse entendre que le Politburo d'émission a légèrement évolué. Hein. Il y a une accentuation qui ne l'est pas du tout pour me déplaire. Et donc, pour vous parler de Water From Your Eyes, je vais vous dire qu'ils sont un groupe formé il y a 10 ans, en fait, 10 ans déjà, à New York. Ils se sont formés, mais ils sont originaires de Chicago et ils se sont constitués en duo. Rachel Brown et Nat Hamos, ils se sont imposés assez rapidement sur la scène indie, on va dire, comme une valeur sûre depuis au moins leur deuxième album. Tout de suite rencontrer le succès, au point qu'ils ont la particularité de posséder non pas seulement une page Wikipédia qui leur est dédiée, mais une page Wikipédia pour tous leurs albums et des pages Wikipédia pour certains de leurs morceaux. Autant dire que leur notoriété n'est plus à démontrer, et que d'ailleurs leur précédent album Everyone's Crushed a fini dans le top 10 un peu comme les Geese dont on parlait la semaine dernière, la précédente émission, dans le top 10 de fin d'année de nombre de magazines. Et ce septième album, le nouveau qui vient de sortir, It's a Beautiful Place, est à nouveau largement salué unanimement par la critique. Donc c'est vraiment une valeur sûre actuellement, alors qu'ils cultivent avec brio un créneau musical quelque peu délaissé ces derniers temps, puisque Water From Your Eyes, avec un style propre mais en faisant preuve d'une indéniable talent et d'inventivité, relance le goût pour tous ceux qui se sont qui sont nostalgiques et amoureux de sonorités pop puissamment matinées de rock, et surtout mis au goût du jour par différents emprunts qui vont de l'art rock à l'électro. Et comme elle aime à le dire Mathieu, on pénètre ici dans une sorte de zone de confort pour me concernant, puisque le son qu'il déploie repose sur des fondamentaux qui reposent sur le fort accent mélodique indie empli de saturation. C'est un peu un des bains dans lesquels je me suis formé en matière de culture rock. Seulement, ça remonte à 30 ans désormais, hein, les années passent. Autant dire que Water From Your Eyes détonne quelque peu dans le paysage actuel, à mon grand plaisir d'ailleurs, mais c'est quand même une singularité, je pense, car la magie opère toujours avec leur son, qui sont des réminiscences, qui font tour penser à des groupes comme Lush, comme Stereolab, My Bloody Valentine sur Born to, une scène indie qui balançait entre la pop et le shoegaze dans les années 90, mais mis au goût du jour avec des tonalités plus électro, que je le disais. Donc cet album se révèle au final un vrai régal pour tous ceux, toutes celles qui n'ont pas perdu foi en ces heures sombres où domine l'impérialisme post-punk, et qui savent que le meilleur de la musique se trouve dans la pop. Voilà.
Ouais, ils ont toute leur place sur le label alors.
Tout à fait, ils sont très bien chez Matador.
Et toi, Nina, est-ce que t'as pleuré en écoutant cet album?
Alors moi, à l'écoute du premier morceau de l'album, j'étais très enthousiaste et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est tout ce que j'aime ». Avec ce chant féminin blasé qui contraste avec ce riff de guitare assez lourd. Mais la suite m'a beaucoup déçue. La guitare vénère et le rock bien lourd ne sont finalement pas si présents que ça, voire pas du tout sur cet album, qui s'avère être plus posé que ce à quoi je m'attendais. Et c'est assez frustrant car il y a un sacré potentiel pour faire des super morceaux rock, mais ça ne semble pas être l'objectif du groupe, et c'est tout à leur honneur, mais du coup, bah moi je suis restée sur ma faim.
Mathieu ?
Alors pour ma part, moi j'ai trouvé des choses qui me parlaient. Il y a un aspect dire ouf par exemple qui est assez récurrent dans les morceaux. Il y a un aspect art rock expérimental qui est plutôt intéressant. Il y a de la saturation. Et la saturation arrive pas forcément là où on l'attend justement. C'est ce côté expérimental de surprendre l'auditeur. Il y a des interludes qui sont un peu étranges, et cet album, pour moi, je le trouve globalement assez intéressant. En revanche, je me vois pas l'écouter en boucle.
Cédric, tu nous l'as écouté... Héloïse, pardon, excuse-moi, tu nous l'as écouté combien de fois?
au moins deux fois. Non, plus sérieusement, comme Guillaume a pu le laisser sous-entendre, It's a Beautiful Place, c'est un album qui se situe vraiment à la limite du décibel de bruit réglementaire pour figurer dans la playlist de Tata Poum. Et pourtant, c'est un disque que j'ai trouvé savoureux en raison de la débâcle de sonorité et de propositions musicales qu'il renferme. Dans le dossier de presse, de manière un peu elliptique, Nate Amos résume « Nous voulions représenter un large éventail de styles d'une façon indiquant que tout n'est qu'un petit point dans l'espace. Et ce large éventail de styles est ce qui fait la singularité de ce disque qui, empreint d'optimisme et de légèreté, déploie en moins d'une demi-heure une mosaïque sonore allant de l'ambient à la pop, en passant par l'indie rock, le shoegaze ou encore le trad, comprenant même deux interludes purement musicaux. Trop courte pour que l'auditeur sombre dans l'ennui, cette hétérogénéité fait selon moi toute la richesse de la proposition qui ne perd finalement jamais en cohérence. Il en résulte un disque foisonnant et au final un vrai bijou. »
Bon, on va comprendre la prise de parole du Nina, parce que le premier morceau qu'on a passé, en effet, il y a les guitares, et là on va enchaîner avec le deuxième morceau de l'album Blood on the Dollar, et on va en effet comprendre qu'il y a peu de guitares dans l'album à part le premier morceau. Allons-y. On va traverser l'Atlantique direction le quartier indien de Barcelone avec le groupe Shakti qui sort son premier album sur un de nos labels préférés dans l'émission, le label londonien La Vida es un Mus. C'est Oluis qui a tiré le gros lot de nous le présenter parce que moi j'ai quasiment rien trouvé sur le groupe, alors je ne sais pas si t'as pu nous trouver plus d'infos sur ce groupe de rock bengali qui sent bon le curry madras. Alors tu nous as choisi comme premier morceau le titre Andolan.
Risa, camalaza, andolan, para calzar hasta andolan. Yeah.
Alors Héloïse, tu nous présentes le groupe Shakti.
Puissance divine féminine dans l'hindouisme, Shakti désigne également le nom d'un quatuor punk barcelonais biberonné à la culture indienne dont plusieurs des membres sont originaires. Le groupe vient de sortir son premier album, ST, paru en octobre dernier auprès du label londonien bien connu de Tata Poum, La Vida es un Mus, auprès duquel nous puisons nombre de nos références. Il en résulte un disque tout aussi percutant que bouillonnant. ST, ce sont d'abord des sonorités post-punk, notamment une ligne de basse entraînante, alliée à une approche résolument hardcore, dans laquelle se mêlent des relents de musique classique hindoustanie, de disco et de garage indien. Un brûlot punk hardcore, dans lequel le traditionnel combo basse-guitare-batterie côtoie un synthé, un chant en marathi et en anglais, ainsi que des rythmiques influencées par les bandes originales de Bollywood, résolument groovy. Déclaration tout autant que provocation, ST évoque ensuite pêle-mêle la nostalgie, l'exil et la révolution, en passant par une critique du racisme et une satire de la désillusion post-coloniale. Le ton est ainsi donné dès l'introduction de l'album, la Anne Pani, qui dans un chanté parlé dénonce l'hypocrisie de la Grande-Bretagne, qui d'un côté s'approprie la culture indienne, tout en rejetant de l'autre la présence des immigrants. Le point d'orgue de cette démarche étant représenté par l'utilisation de la croix gammée, symbole de paix dans la culture indienne, par les skinheads d'extrême droite. Il en résulte un album très lutte des classes, copieusement bruyant, qui a le mérite de nous faire voyager du côté d'un sous-continent indien, trop peu connu, et je pense à tort, pour sa scène punk rock.
Guillaume.
Non, mais c'est indéniablement une proposition intéressante que font ce groupe. À l'habituel et sursaturé scène punk d'où il est souvent difficile de s'y distinguer, Shakti nous propose d'adjoindre des sonorités issues de la culture musicale indienne, notamment de l'univers Bollywood, chantées en langue locale, s'il vous plaît. Et effectivement, ne serait-ce que par le chant hindi, l'album détonne. D'autant qu'il ne se veut pas seulement d'un sommaire punk, mais ça monte ses vertus à adjoindre différentes modulations, groovy, noise, l'ajout supplémentaire de son indie sorti de l'ordinaire de la boîte à outils punk valorise encore le ressenti. Donc ce serait réellement original et intéressant s'il n'était le niveau général des compositions. Si musicalement il y a pas mal de choses attirantes dans ce qu'ils font, l'ensemble demeure encore trop sommairement punk au sens classique. Shakti ne s'aventure pas assez loin à mon goût pour transcender leur idée de base, et je le regrette.
Aïe, 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 Cédric, tu rattrapes.
Bon, on s'excuse auprès des auditeurs et des auditrices, on est obligé de le garder. Ses parents qui nous l'envoient, on s'est engagé, bon. Non, c'est un magnifique album. C'est déjà aussi un très bel objet, cet album, une magnifique pochette avec
deux
jaunes, avec une panthère noire. Ouais. Vraiment, ouais. Esthétiquement, très belle réussite. Alors, ça aurait pu virer assez vite folklore, n'importe quoi, un peu appropriation culturelle rigolarde, bourrin. Mais non, hein, comme tu l'as rappelé, Héloïse, c'est un groupe qui est vraiment engagé, qui a des choses à dire sur le colonialisme et sur le racisme. Juste pour information, Héloïse, parce que tu es plus jeune, mais la croix gammée, c'est pas que les skinheads qui l'ont utilisé.
Je sais.
Il y a d'autres gens avant.
J'étais sur le credo de la Grande-Bretagne.
Sinon, bah oui, c'est un album, je trouve, qui est intéressant parce qu'il nous emmène sur des chemins assez variés, avec du hardcore assez sec et des titres plus funky. Bon, certes assez punk, mais qui reste dansant, quoi, finalement. Je trouve qu'une originalité de l'album, c'est la mise en avant de la basse qui tient le haut du pavé sur bon nombre de titres, notamment sur Incalab, qui est un super titre, et c'est assez rare quand même pour le mentionner et pour susciter l'intérêt. Donc voilà, moi je trouve que c'est assurément la petite pépite Tata Poum de la journée aujourd'hui, une sorte de Bollywood au premier degré, survitaminé, déglingué, joyeux. Et vraiment ce label, c'est quand même quelque chose, on l'a dit, on l'utilise souvent, il y a encore eu des sorties récentes, on en reparlera peut-être, on n'en sait rien, notamment du groupe hardcore Unidad Ideologica qui vient de sortir, qui est super, et le nouvel opus de Homefront, ce mélange de post-punk et de Oi, excellent. Bref, après le premier groupe, ça fait du bien de se déboucher un peu les oreilles avec ce magnifique groupe.
Et alors, vous avez trouvé ou pas il y a des rajouts de voix sur le, où c'est le chanteur qui lead sur tout l'album?
À certains moments, ils reprennent des films de Bollywood. D'accord. Ou des émissions de télé qui calquent sur leur musique. Il y a notamment des morceaux qui sont assez instrumentales. Par exemple, l'intro qui fait très spoken word et dans lequel ils dénoncent l'hypocrisie justement de la Grande-Bretagne et le rapport au colonialisme.
Mais c'est le chanteur d'origine indienne ou pas? Parce qu'il colle vraiment à la voix.
Pas que le chanteur d'ailleurs. Pas que le chanteur, il y a plusieurs des membres du groupe, je ne sais pas si c'est tous ou certains, qui sont barcelonais mais d'origine indienne.
D'accord.
Ah, je viens de réagir. Le haut du pavé pour l'émission 68.
Ah. Merci, Bibi.
Merci.
Mathieu?
Oui,
presque 60. Ouais. Oui. Non, t'as pas connu 68.
Non, j'ai pas connu 68. Faut pas commencer à être désagréable avec moi, alors qu'il y a encore plusieurs albums à chroniquer. Moi, je voulais aller plus loin par rapport à ce label, La Vida es un Mus. Donc, c'est un label anglais, mais en fait, c'est un espagnol qui gère le label, ce qui explique sans doute qu'il aille chercher des pépites en Espagne. Donc cet album de Shakti, oui, il y a globalement sonorité orientalisante. Moi, ça, en fait, dans l'esprit, ça m'a rappelé ce qu'avait essayé de faire en France un Rachid Taha. Alors avec un côté plus péchu et en mélangeant plus de choses, mais c'est un vrai pas de côté. Alors c'est pas la révolution quand même, mais oui, ça fait du bien aux oreilles. Et voilà, lors de la dernière émission, on disait qu'il y avait pas beaucoup de, on n'avait pas encore chroniqué beaucoup de d'albums en espagnol. Ben là, je pense que c'est le premier en marathi qu'on chronique, et c'est bien de continuer à aller voir ailleurs que la sainte trilogie Angleterre, États-Unis, Australie.
On va continuer sur un deuxième morceau.
Je pense que Guillaume voulait rajouter France.
Ouais, alors deuxième morceau de Shakti, pour le coup j'ai un problème de prononciation, mais Koh-i-Noor. Allez, Koh-i-Noor.
Oh,
Ouais, on va quitter donc les Marathi Bengali de Barcelone, direction l'une de nos destinations préférées, tu l'as dit Mathieu, c'est l'Australie, avec un nouvel album de Miniskirt qu'on a déjà chroniqué en 2021, c'était lors de la 7e émission. Et donc c'est leur nouvel opus qui sort 5 ans, ils ont pris le temps après leur premier long format, qui semble auto-distribué, j'ai pas compris quel était le label sur lequel ils avaient signé, tu vas peut-être nous le dire Mathieu tout à l'heure, mais t'as choisi comme premier titre Pottsville River. C'est Mathieu qui va nous parler de Miniskirt. On entend quand même vachement bien les sonorités du groupe qu'on avait déjà chroniqué. Moi, ça me fait vraiment penser à l'album précédent.
Mathieu. Oui, mais c'est le même groupe, en fait. Donc, en fait, Miniskirt, c'est un groupe australien de Byron Bay. Donc, tu l'as dit, c'est son deuxième album. Il a pas fait que ça. Il a fait quelques splits avec des groupes comme Coffin ou les Cosmic Psychos. Et cet album, donc All That We Know, il a été enregistré étonnamment, hein, comme à peu près la moitié des albums australiens, avec Mikey Young, le producteur qui a mixé, masterisé cet album et qui est un ancien membre de Total Control ou Eddie Current Suppression Ring, qui sont des références dans le genre en Australie. Donc tu l'as laissé sous-entendre, et je le confirme, en 2021, Tata Poum avait épluché l'album Casino en juin 2021, pour le numéro 7 de Tata Poum, et globalement cet album avait été adoubé, alors avec plus ou moins d'enthousiasme, mais quand même il n'y avait pas eu de rejet total, et à l'époque on s'était étonné de l'appellation pub rock qui colle à la peau du groupe, et étonnamment on trouve encore beaucoup de références à un rapprochement du groupe avec la notion du pub rock. Je comprends pas, ça reste quand même très très étonnant, puisque pour moi c'est un garage punk assez classique d'un bout à l'autre de l'album, et si quelqu'un a une explication de ce que je manque concernant cette appellation, ça m'intéresse. Cet album, je voudrais rapidement aborder la pochette, parce que même si elle est pas très très explicite, moi j'ai l'impression que c'est quand même en lien avec les textes, qui ont une connexion sociale évidente, puisque j'ai l'impression qu'en gros c'est un campement plus ou moins sauvage pour des gens qui ont pas la possibilité de s'installer ailleurs que dans une pauvre tente pourrie au bord de la rivière, quoi. Mais peut-être que j'ai mal interprété l'image. Sur cet album, le chant il reste assez particulier. Il va dans plusieurs styles, mais les 33 minutes que durent ces 11 morceaux sont globalement très homogènes, puisque tu le disais, Arnaud, ça fait penser quand même au premier album Casino il y a 5 ans, très très homogène, voire trop homogène. Sans doute ça permet de l'apprécier, mais pas de le trouver incontournable ni indispensable. C'est pourtant sur scène l'album, je pense qu'il va déménager, parce que ayant vu le groupe à l'international en juillet 2023, le groupe sait y faire. Il est totalement addictif et efficace, alors que le côté répétitif met un petit bémol sur cet album. A priori la scène transcende les Australiens, et moi j'attends de les revoir sur scène pour revoir à la hausse l'appréciation de cet album.
De mémoire, Héloïse, alors tu t'abstiens sur le groupe, mais c'est toi qui avais développé, ou en tout cas épluché, l'appellation pub rock. Je sais pas si tu te souviens de ce que tu avais pu dire, mais il faudrait qu'on réécoute la 7e, parce que tu nous avais éclairé justement sur cette appellation. Cédric, t'en penses quoi?
Moi je trouve que c'est clair, on est en terrain connu avec cet album. Assez immédiatement, il y a pas vraiment de surprise, c'est sûr. C'est pas un album qui m'a marqué parce qu'il est détonnant. Mais c'est vrai aussi qu'on est assez exigeant finalement avec ces groupes australiens qui nous ont produit beaucoup de belles choses. Mais c'est quand même un album qui a une belle puissance. C'est un bon punk mélodique, efficace. Tu disais, Mathieu, tout à fait, quoi, ça marche très bien. C'est clairement dans la continuité de l'album précédent, dans la continuité aussi de groupes comme Steve Richards par exemple. Mais un peu plus garage, et le mixage de Mike Young doit certainement y être pour quelque chose. C'est quand même la grande figure du punk rock garage australien, qui a joué dans les groupes les plus, enfin dans les groupes phares, et ceux qui ont certainement été à l'initiative de toute cette réémergence du rock garage en Australie, notamment Eddie Current. Alors la particularité, c'est quand même d'avoir ici un groupe engagé, ce qui est pas le cas de bon nombre des groupes australiens dont on parle, qui peuvent être assez déconnants comme les Chats, etc. C'est assez jouissif, mais de fait, faut pas leur demander de parler d'autre chose que d'aller boire des bières, quoi, en gros, quoi. Et ils revendiquent d'ailleurs pas autre chose. Et bon, c'est quand même assez important, parce que l'Australie, c'est quand même le pays de l'ultralibéralisme, un pays quand même où le racisme est quasiment, je sais pas, une discipline d'État, quoi. Donc bon. ça fait du bien, c'est intéressant. Et on en parlait aussi avant. On sait pas très bien, mais on a l'impression qu'ils s'autoproduisent. Et ça doit certainement être un choix, parce que ça, ils avaient quand même eu un petit succès sur le premier album. Ils avaient eu des contacts avec un label allemand, donc on imagine que ça doit être une initiative de leur part. Moi, j'aime bien les riffs puissants, cette voix cassée qui est proche de Proto Martyr d'un côté, puis de Lemmy, de Motorhead, je trouve sur certains titres, notamment sur Smart Enough par exemple, qui tient bien le tout. Alors, le côté pop rock, c'est sans doute pour des côtés un peu plus lourds. Je trouve que le côté garage traditionnel, c'est sans doute pour ça qu'on les renvoie à ça. Mais c'est moins pop rock que Coffin, par exemple, avec qui ils ont fait le EP en commun, où les guitares sont plus lourdes. Moi, j'apprécie pas trop Coffin. J'aime vraiment. Enfin, je préfère nettement Miniskirt. C'est sans doute aussi parce que leur titre sent un peu la bière, même si c'est pas le fond du texte, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on les renvoie du côté du pop rock, peut-être un peu facilement. Donc une forme d'évidence à l'écoute, mais je trouve que c'est pas non plus rien de réussir à faire ce qu'on a envie d'entendre finalement, et que ça leur porte sans doute un peu préjudice pour être davantage connu, mais c'est déjà pas rien de faire quelque chose qui plaît au premier abord. Ça a l'air simple et ça l'est sans doute pas complètement. Et je trouve qu'il y a aussi des titres qui tranchent comme Roundabout, où les mots sont plutôt crachés pour raconter l'ennui de leur petite ville, et ça, je trouve que c'est vraiment une super chanson. C'est pas poseur du tout, c'est cet album. Et ça passe assez bien, même sur le dernier titre, qui est plus calme, Parler, répéter, Série 3, qui est aussi très bien, qui vient bien clôturer l'album. Alors, c'est pas le groupe australien que je préfère dans tout ce dont on a parlé, mais bon, la manne est infinie, quoi, en Australie. Mais j'irai les voir avec grand plaisir quand ils passeront, parce que je les avais ratés la fois précédente. Donc, j'attends ça avec impatience, quoi.
Ouais, peut-être qu'aussi qu'on se lasse des groupes australiens, hein. Nina, tu viens d'arriver dans l'émission, mais on en a chroniqué un paquet ces deux dernières années, là, c'était un non-stop. Guillaume, est-ce que tu te lasses de...
Bah déjà
sonorité australienne.
Le garage, j'aime pas trop ça à la base, donc j'avais bien aimé, franchement, j'avais bien accroché au premier album Casino, là, c'était peut-être plus pub rock d'une certaine façon, mais celui-ci, j'ai eu plus de mal, hein. Il y a un côté ronronnant, uniforme, tu l'as dit un peu, Mathieu, il y a une tendance un peu à être dans la redite, et c'est ça qui m'a un peu refroidi. C'est comme c'est australien, enfin ils savent faire, hein. Il y a assez solide sur les fondamentaux. si c'est à chaque fois ils sortent des albums à chaque fois, techniquement tu peux pas être déçu, quoi. Tu sais que ça va être bien fait, le travail bien fait, un peu Deutsche Qualität, là, comme on disait à un moment, quoi,
à l'époque.
Mais c'est à nouveau ça. Après, j'aurais aimé un peu plus de, ouais, qu'ils évoluent un peu plus, là je ressors déçu de façon générale, voilà, tout simplement.
Bon, tu ronchonchonnes, quoi, il est pas content,
mais je suis pas grand fan à la base de ce genre de musique, donc si ça transcende pas un peu plus, je peux pas m'en contenter.
Nina?
Bah moi c'est l'inverse. C'est pas difficile. dès les premiers morceaux, en fait, ça m'a fait penser à Viagra Boys, qui est un de mes groupes préférés. Donc j'ai désolée. Donc en fait j'ai adoré. Je suis en public assez facile pour ce genre de musique. Mais ça m'a fait penser aussi à un groupe sur lequel j'avais flashé au festival de Binic l'été dernier, qui s'appelle Public House. Qui est un groupe australien aussi, et je pense pas que ce soit une coïncidence, mais comme tu viens de le dire, Arnaud, j'ai l'impression que vous connaissez bien la scène australienne, donc j'invente pas du tout l'eau chaude en disant ça. Les instrus sont solides, les riffs puissants et efficaces, la voix est un peu dissonante, un peu parlée, et j'ai l'impression que c'est un peu ce cocktail qui fait la marque de fabrique de ce courant. C'est le genre de groupe qui doit être super en live. Si j'avais un truc négatif à dire, c'est peut-être que ça manque un peu de personnalité. En fait, ça pourrait juste être n'importe quel groupe du genre, mais au final, peu importe, puisque c'est terriblement efficace.
Bon, on va voir ça sur le deuxième morceau que tu nous as choisi, Mathieu. Tu nous as choisi le morceau Mud. Terminer cette émission par un album sorti il y a déjà quelques mois, en mars 2025, donc c'est pas de première jeunesse. Il s'agit du second album de la londonienne Aya, album qui est sorti sur un label de musique électronique, ce qui commence à... Aïe, 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 bah, je sais, le label Hyperdub. Mais pour dissiper quand même tout malentendu, si on regarde la fiche descriptive de cette jeune londonienne sur Discogs, il y a un qualificatif qui coche la case Tatapoum, c'est Noise. Alors est-ce que j'ai eu raison de vous proposer de sauver la jeune Aya de l'oubli collectif? On va vite le savoir. C'est Cédric qui va nous présenter le groupe. Et t'as choisi comme premier morceau « I'm the pipe I eat myself with ».
Where's the beginning? Where were we before?
I.
Used to say some shit, for sure. I used to say some me more. I used to say it when I was me less. I used to say some shit about
shoes and my heels
digging in. Buried deep in shit
eating chagrin.
I used to say some shit about a stopped clock.
As the time slipped right off my hands, I've been finding my grip. We'll be right back.
On est clairement sorti de notre zone de confort. Cédric, tu nous le présentes ?
Alors, Aya, next. Mais ça va, j'ai encore rien dit. Donc, Ext, donc, qui veut dire maudit. Et le deuxième album d'Aya, Sinclair, donc, après le premier album, I'm Whole, sorti en 2021. Pour autant, cette musicienne qui nous vient du nord de l'Angleterre, hein, pas loin de Manchester, il y a peut-être des liens lointains avec l'Hacienda, etc. Cette musicienne, une carrière un peu plus longue, puisqu'elle officiait depuis 2016 sous le nom de Loft jusqu'en 2021. Alors, curieux destin pour Aya, hein, qui se range d'abord du côté du rock chrétien qu'elle quitte à la faveur de son coming out trans, qui ne passe pas du tout bien dans l'église pentecôtiste qu'on peut imaginer. Oui, c'est ça. Et donc bon, elle quitte cette église et cette mouvance du rock chrétien pour se diriger vers d'autres univers, comme vous avez pu l'entendre. Alors j'en ai un peu fini pour la présentation du groupe, hein, puisqu'elle fait tout toute seule, donc j'ai pas d'autres membres à présenter. J'ai oublié le titre du label, donc un label d'électro que je ne connaissais pas, et je connaissais pas d'ailleurs cette Aya, qui a vraiment les faveurs de la presse musicale pompeuse, hein, puisque Pitchfork est en poimoison devant l'album, etc. Enfin, toute cette presse, quoi. Donc Guillaume se régale, hein, qui met des notes aux albums, ça c'est formidable encore. On manquait d'évaluation dans ce monde, et donc on donne des notes, quoi. Voilà, c'est sans doute ça, l'underground intello états-unien. Cet album est donc plus radical que le précédent. Il s'étend sur 10 titres pour 34 minutes. C'est une musique électro, rude, inquiétante. Alors, parfois un peu noise, mais vraiment parfois quand même, hein. Il faut quand même le dire. C'est surtout très intello, je trouve, comme approche. Et finalement, pas si loin des trans et des expiations religieuses qu'elle a dû connaître à ses débuts dans son rock dans l'église pentecôtiste. C'est évidemment très auto-centré, puisque très très intello. Le précédent était consacré à ses sorties et ses relations sexuelles, et dans celui-ci, on y parle plutôt de ses consommations de drogues en tout genre et d'alcool. Donc tout est fait pour inquiéter et retracer l'univers toxico-anxiogène. Le son est saccadé, c'est du spoken word. La pochette, bon, vous en parlerez peut-être, qui monte des vers dans sa bouche, est assez répugnante et touchy en même temps. Alors ça fonctionne, hein, puisque c'est un gros succès, puisque le vinyle est épuisé. J'avoue que moi aussi, en l'écoutant. Alors ben, voilà, 2026, c'est donc l'invasion du Venezuela, la répression terrible en Iran, et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de vous faire écouter Aya. Désolé.
Allez Mathieu, enfonce.
Je sais pas pourquoi tu imagines que je vais suivre Cédric sur ses pas, alors qu'effectivement la pochette elle est particulièrement immonde. Ça quand même, j'ai l'impression que c'est une photo prise avec des enfants de 10 ans qui ont dit ah ben je vais faire peur à ma mère, tiens je vais mettre des vers de terre dans ma bouche et je vais prendre une photo, et ça fait une pochette. Je trouve que c'est quand même un peu léger musicalement. Alors ouais, moi j'ai lu techno, arch, grime, plein de choses que je ne maîtrise pas du tout, hein, ça, très très clairement. Moi, je me dis qu'en fait, cet album, ça pourrait marcher et ça pourrait être vraiment intéressant en tant que BO de film. Mais en album, ça me laisse totalement froid. En dehors d'un morceau comme Droplets que je trouve plutôt intéressant, mais le reste, c'est quand même un peu compliqué. Et même quand il y a des morceaux totalement instrumentaux où là, on évite d'avoir
d'avoir d'avoir un chant qui n'en est pas, comme le morceau Ext, ben je reste vraiment au mieux dubitatif, donc je ne vais pas jusqu'à jeter Aya avec l'eau du bain, mais pas loin quand même.
Héloïse, est-ce que t'as ouvert la baignoire et jeté l'eau du bain?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, je dois bien avouer qu'il m'a fallu au moins une seconde écoute pour commencer, mais vraiment de loin, à apprécier ce disque, à propos duquel je serais plutôt mitigée, voire complètement passée à côté. Incontestablement, il s'agit d'une techno cabossée, politiquement assez enthousiasmante, qui épouse le spoken word, le trip-hop maladif ou encore très très ponctuellement, comme a pu le souligner Cédric, la noise. Certainement, cet album ambitionne de foutre le feu au dancefloor du panthéon du clubbing actuel, et entre nous, c'est tout à fait le bienvenu. Indubitablement, il y a quelque chose de punk dans la démarche. Las, punk est davantage qu'une étiquette performative dont se revendiquer suffit à transformer n'importe quelle musique en un petit brûlot bruyant. Or là est précisément à mon sens que le bas blesse. Plutôt que de se concentrer sur ses beats assassins, l'album divague et à mon sens se perd dans des expériences sonore qui souvent plonge la bourrine que je suis dans un mortel ennui et une frustration prégnante. J'en donne pour exemple le titre éponyme de l'album, 4 minutes 26 de musique d'ascenseur, qui pourrait servir de modèle aux balises de Cause Commune, ou le morceau The Petard Is My Oyster, lui aussi exclusivement instrumental que je n'ai tout simplement pas compris, ou encore point d'orgue de cette démarche, le titre Pitch, construit à partir d'une succession de beats punk et énergiques, en un mot impeccable, entrecoupé de beats lents et indigestes avant que cela bugle à nouveau. Bref, je passe mon tour.
Bon, alors, musique d'ascenseur, si t'es claustro, c'est dur, hein, parce que c'est quand même vraiment assez violent comme musique d'ascenseur. Nina ?
Alors moi, j'aime bien comprendre ce qui se passe quand j'écoute de la musique, et ça n'a pas vraiment été le cas avec cet album. C'est hyper déconstruit, c'est sûrement très audacieux, mais moi, j'ai été perdue dès le premier morceau, même si en fait, ça s'est un peu arrangé au fil de l'album. C'est énervé, c'est crade, à l'image de la pochette de l'album dont on a déjà parlé. Et l'esprit punk est bien présent. J'écouterai pas ça toute seule chez moi pour le plaisir, mais je serais quand même curieuse de voir ce que ça donne en live. Ça doit être une sacrée performance.
Ouais, Guillaume, c'est sûr que c'est, enfin juste deux mots avant, c'est de l'électro, mais c'est la voix qui rend le tout, le paquet cadeau un peu plus punk, parce que si ça avait été que des instrus, je pense pas que je vous aurais proposé. Ce type d'album, Guillaume, c'est peut-être un peu plus ta cam.
Ben c'est surtout qu'il n'y a pas de guitare, et c'est pourtant.
Qu'est-ce que tu fous chez Tatapou ?
Non, ouais, non, il n'y a pas de guitare chez Aya, et pourtant, l'univers singulier qu'elle parvient à développer avec ses machines électroniques est assez sensationnel à mon goût, sensationnel, tout à fait. C'est à la fois troublant et envoûtant, et nombre de groupes à guitare peuvent lui enlever cette capacité. C'est une musique qui intrigue et nourrit l'imaginaire. L'étrangeté est totalement assumée des ambiances hyper travaillées de chaque morceau, ne cesse de se déstabiliser par ses modulations déstructurées, et la voix n'est pas en reste avec ses multiples inflexions et transformations. On aboutit à un univers à la fois cohérent et étrange, et c'est pour moi une belle démonstration de créativité qui place Aya à la hauteur de d'autres musiciens ou musiciennes comme Fever Ray, que j'adore et dont on avait parlé, qui peut s'incarner dans ce même type de démarche, ou encore le néerlandais Nazar. Ces intrigants mondes sonores qui sortent de l'imagination de leur créatrice pour nous emmener dans des contrées inédites. C'est talentueux de bout en bout, et ce disque s'impose pour moi comme l'un des albums de l'année 2025 haut la main.
On va écouter un deuxième titre. Je vais vous le donner en anglais. Je sais pas si t'as pris le soin de le traduire, toi Cédric, mais j'ai essayé de le traduire. J'ose pas forcément donner la traduction française, mais ceux qui voudront iront la chercher. C'est The Names of Fagos Shave Boys. Visiblement, c'est une injure très 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 violente, notamment en anglais, sur les homos et les migrants. Donc, je vous laisse l'écouter. Away.
is this going to be? Is this going to be 4 or 5 GHS? Strangled by the power cord. The names of faggot shaft boys that I don't want to dream anymore.
Is this going to be?
Grumbling high rise, being a drop from the 8th floor. And all the evidence points to me that I don't want to dream anymore.
Is this going
to
be
Julianne? Stress syllables on a blackboard.
And she's just there for me.
Then I don't want to dream anymore.
If it's going
to
be global virus on shift at the front door, and the cars roll back on the M-way, then I don't want to dream.
New house birds! Stumble through the wreckage, shuffle the hedges, curled up my neck and streaking skin out the wind. But the guns are Larry, swung your side, stabbing to the cues.
Swan dive to the tarmac. Is this gonna be 4 or 5 GHS? Strangled by the paracord. The names of faggot shaft boys that I don't wanna dream anymore.
Is this gonna be
grumbling high rise, finger drop from the 8th floor? And all the evidence points to me that I don't wanna dream anymore.
Is this gonna
be
Julianne?
Stress syllables on a blackboard.
And she's just there for me.
Then I don't wanna dream anymore.
Is this gonna be global virus on shift at the front door?
Je vais laisser la parole à Cédric qui se résout pas à finir l'émission sur ses sonorités. Il veut absolument nous parler d'un coup de cœur.
Oui, non, c'est parce qu'on parlait des groupes australiens tout à l'heure. Je disais que c'était peut-être pas le groupe australien que je préférais, Miniskirt, mais notamment il y a un groupe qui vient de sortir un nouvel album, The Unknowns, Looking from the Outside, qui vient juste de sortir. On les avait chroniqués il y a un an ou deux sur le précédent album. On va sans doute pas le remettre parce que c'est quand même assez proche. C'est du punk efficace, très 77, très proche des Ramones, quoi, en gros.
Ouais, et dans The Unknowns, il y a un membre des Chats.
Ah ben voilà.
Ben voilà, on en parlait aussi tout à l'heure.
Voilà, ben c'est très bien. Et donc oui, c'est vraiment super efficace, ils sont bientôt en France, je sais pas ce qu'ils font comme tournée en France, mais qu'ils seront bientôt à Paris.
Le 14 février, sans doute au Chinois.
Voilà, et donc sans doute dans d'autres villes. Vraiment,
et on y sera sans Guillaume.
Voilà. À écouter d'urgence.
Bon, il faut toujours qu'on en revienne à l'Australie, hein. Il va falloir quand même se détacher de ce pays un jour ou l'autre. Bon, bah merci en tout cas à tout le monde d'avoir été aussi sincère, juste et nuancé dans vos critiques. On se dirige tout droit vers la
69e. Si on était juste et nuancé, on a raté.
On se dirige tout droit vers la 69e émission de Tatapoum, toujours sur Cause Commune 93.1. Tous les dimanches de 20h à 21h. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook pour laisser des commentaires si vous le souhaitez, sur les podcasts sur notre site internet que vous pouvez retrouver facilement sur moteur de recherche. À tout vite, ciao.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.